On square les jeunes, un petit peu de musique cheap, s'il vous plaît.
Avant de parler, j'aimerais dire quelque chose.
Les cyniques. Méchante révolution.
Selon la rumeur, on serait censé faire un spectacle méchant.
Vous allez voir que ça swing à mort.
Un portrait du groupe d'humoristes le plus influent de la Révolution tranquille.
Une bonne main d'applaudissements, un godin à vaplades pour...
Les cyniques!
Les cyniques!
Les cyniques!
Les cyniques!
Les abominables cyniques!
Les cyniques, c'est les cyniques.
Au plus grand groupe humoristique que le Québec ait jamais connu, les Gérolas! Alors, excusez, les cyniques!
Deuxième épisode.
C'était les premiers artistes que j'ai connus de moi, totalement irrévérencieux.
Gilbert Rozon.
Qui piétinait ce qu'on croyait impossible à toucher même. Il piétinait les autres. Et vraiment, il se moquait de tout, là.
On raconte dans les milieux généralement bien informés que le Père Noël est un gentil garçon. Eh bien, rien n'est plus éloigné de la vérité, car de ce temps-ci, le Père Noël devient maussade, grognon, taciturne, acariâtre. Transportons-nous chez Eaton au moment où le Père Noël reçoit sur ses genoux un petit garçon.
Bonjour, Père Noël.
Ben oui, salut le petit monstre.
Père Noël, j'étais sage pendant toute l'année.
C'est rien, j'étais y pareil. Regarde-moi donc, là.
Oui.
Ta maman, est-ce qu'elle est belle?
Oh, oui.
Ça doit être ton père qui est là, d'abord.
Père Noël, je voudrais te demander des étrennes.
Oui, fais ça vite, là. Père Noël, il a hâte d'aller prendre sa bière.
Père Noël, je vais avoir un train électrique.
Ton papa, il est-il riche?
Non.
T'en auras pas.
Je vais avoir un train électrique, bon.
Père Noël, il aimerait bien mieux te donner une chaise électrique.
Père Noël... Père Noël, j'étudie fort.
Oui, es-tu bon un peu à l'école?
Ben, ça fait 3 fois que je recommence ma 2e année.
Tu t'en vas vers la politique?
Père Noël, je vais avoir un jeu.
Oui. Pourquoi tu joues pas à Guillaume Tell?
C'est quoi ça?
Tu mets une petite pop-homme sur ta petite tête. Tu dis à tes petits amis de tirer des flèches.
Oh, c'est le fun. On peut-tu jouer souvent?
Seulement une fois.
Je vais avoir un jeu.
Tu veux pas un marteau pour quand t'es malade?
Pourquoi?
Pour te clouer au lit.
Non.
C'est pas que le Père Noël il donne un set de chimie.
Pourquoi?
Faire de l'acide sulfurique pour lancer sur les petits juifs.
Non.
C'est pas que le Père Noël il donne une maladie honteuse.
Non.
Des béquilles.
Non, bon.
Tu t'ailles ça, moi t'arraches un bras, va te battre avec le bouc.
Eh bien, Noël, qu'est-ce que je vais avoir pour Noël?
Ah, ferme tes yeux, moi, te le dire, là.
OK.
Je suis fermé, là.
Oui.
Qu'est-ce que tu vois?
Rien.
C'est ça que tu vas avoir.
Extrait d'une entrevue accordée par le cynique Marcel Saint-Germain à l'animateur François Dompierre en septembre 2001.
Nous sommes en 1965. Les cyniques viennent de décider, en cette année extraordinaire, de vivre de ce métier magnifique qui est l'humour. Mm-hmm. Nous étions parmi les premiers à vivre de ça, d'ailleurs, dans cette belle histoire du Québec.
Les cyniques, qui étaient un groupe d'humoristes, il faut le rappeler.
Oui,
les gens ne l'ont pas oublié, mais enfin, il faut
qui avait pris naissance à l'Université de Montréal en 1961. Et nous sommes en 65. Moi, je suis un jeune avocat qui décide de quitter la pratique de droit.
Mm-hmm.
Et à l'été 65, là où le premier disque des cyniques, là au moment où on fait un pique-nique dans le cimetière,
qui est l'image de la pochette. Je me souviens de cette pochette-là extraordinaire.
Ouais. Et nous nous retrouvons à l'automne. Moi, j'ai quitté mon bureau d'avocat pour aller à des choses plus sérieuses, les cyniques. Et là, on se retrouve au Casaloma, qui est le cabaret le plus célèbre à Montréal, celui qui peut contenir à peu près, je dirais, quand il est rempli, près de 1000 personnes.
Les cyniques Serge Grenier, André Dubois et Marc Laurendeau.
Le Casaloma était un endroit où il s'est passé des choses, bien sûr, mais qui était, somme toute, très bien tenu, très respectable, si je puis dire. Même s'il y avait des danseuses cochonnes en haut, mais ça, c'était une autre histoire. Et faire 2 semaines là, ça voulait dire 7 jours par semaine, hein. 2 spectacles par soir, 3 le samedi. Et le propriétaire, pas fou, avait mis une clause au contrat disant qu'il pouvait renouveler la chose pour 15 jours supplémentaires, si tel était son bon plaisir. On a fait donc 1 mois comme ça.
On a eu l'occasion d'ailleurs souvent d'avoir parmi notre public des grosses pointures de ce milieu.
Oui, tout à fait.
Et je me souviens que dans notre
dont le grand chef d'une certaine époque.
Oui, puis on nous le faisait savoir que M. Cotroni était dans la salle.
C'est vrai.
Et on avait, Marcel avait parmi son répertoire une chanson qui était interprétée par... Enfin, il faisait une imitation de...
Tony Massarelli.
Tony Massarelli.
Qui était le gendre de M. Cotroni.
Oui, c'est ça. Et M. Cobetto, qui est le propriétaire du cabaret, Casaloma, nous avait dit... Il était venu voir le spectacle au Totem. Il nous avait dit, « Ah, c'est vraiment excellent tout ce que vous faites. » Mais il y a un numéro, là, Tony Mazzola, là... Ça, c'est pas très bon, là. Il me semble que c'est moins drôle. Ça.
J'ai pas ri.
On a pris ça comme une offre qu'on ne pouvait pas refuser.
Tony Mazzola! Pour t'aimer, j'ai menti. Pour mentir, j'ai péché. Pour pécher,
il y avait des files d'attente devant le Casaloma. On a encore des photos de ça. Alors, c'est là que tout s'est produit. Là. C'est là que ça a vraiment débouché là, sur un vaste public.
L'historien et auteur Jean-Claude Germain.
Eux ont réussi quelque chose qui se passe rarement dans ce domaine-là. C'est-à-dire c'est qu'ils ont réussi tout à coup à quitter leur public, qui était le public estudiantin. À la grande surprise, hein, je veux dire, pour eux, là, à chaque fois que ça avance, là, ça demande ce que c'est qu'ils sont rendus. Puis ils se demandent s'ils vont-tu continuer, parce que dans le fond, ils étaient sérieux. Alors, tout à coup, ils vont ouvrir complètement sur l'ensemble du public, parce que, d'une certaine façon, la société en général a rejoint les revendications de ce que c'est que la jeunesse ça voulait avoir à ce moment-là. Ils ont un comique qui est désespérément libéral, mais le libéralisme de l'époque, c'est le libéralisme progressif, si tu veux, du côté du changement. Donc, ce comique-là devient l'expression. Moi, je dirais qu'ils sont l'expression de la Révolution tranquille sur scène.
Vous savez que pour nous, Canadiens français, il est très important dans les soirées mondaines ainsi que dans les parties de savoir comment s'exprimer, d'être propre, bref, d'être diguidou. Eh bien, ce soir, il faut savoir vraiment comment, entre toutes choses, comment sacrer. Et voici le cours de sacre du professeur Marco Larando.
Jamais on avait sacré sur une scène. C'était un tabou auquel nous nous sommes attaqués et que nous avons enlevé de son socle une première fois. Et ça, bien avant l'hostie show, Michel Tremblay, là, tout ce qu'on voudrait, on a été sur ce plan-là, là, on a servi de fer de lance, avec une certaine inquiétude aussi, hein, parce que je me suis enquis si c'était pas dangereux, parce qu'il y avait une disposition au code criminel qui prohibait le libelle diffamatoire, mais également le libelle blasphématoire. Alors, j'allais voir des grands, grands, grands juristes de notre époque, et qui m'a dit « Non, blasphémer, ça n'est pas ça. Ça, c'est sacré. » Donc, le simple fait qu'on ait voulu prendre cette précaution démontre qu'on était vraiment les premiers là, à aller aussi loin, puis même à le faire, à prononcer des sacres sur scène.
Usagers de la langue française, restons unis, lâchons des sacres, lâchons les biens. Esthète qui goûtez l'art sacré, voici pour vous l'art de sacré. Tout d'abord, les fautes de la semaine. Supposons que vous vous promeniez dans les Alpes suisses en compagnie de votre bon ami. Ne dites pas « Asta une tresse de belle montagne ». Dites plutôt « C'est une calvaire de belle montagne ». Sacré juste. En vous baladant en Versailles, en fin d'après-midi, en regardant les grandes eaux, ne dites pas « Asta une calvaire de belle fontaine ». Dites plutôt, c'est une baptême de Bellefontaine. Dans quelques soirées mondaines, en dégustant un Beaujolais ou un Saumur rosé, ne dites pas « Ah, c'est un crisse de bon vin ». Dites plutôt, c'est un colisse de bon vin. Comme il est bon de pouvoir ainsi boire. L'on vous présente une jolie personne. Ne dites pas « Ah, c'est un crisse de belle fille ». Dites plutôt, c'est une vierge de belle-fille. En lui faisant la cour, émaillez la conversation galante d'expressions plaisamment imagées. Dieu, ma chérie, que j'idolâtre vos exquises grâces, sti. Sacré peu, sacré mieux. Sacré de l'ambiance. Si l'on sait se baudir en groupe, une agréable remarque marque identifie tout de suite les beaux esprits. Un prolétaire laisserait choir un qu'est-ce qu'on a du fun de... Dites plutôt, chasuble qu'on s'amuse.
C'est un immense plaisir de faire rire quand les gens sont bien disposés. Puis quand on y travaille bien, c'est vraiment non seulement une aventure, mais une aventure très, très plaisante. C'est très, très agréable de voir une salle qui réagit, là, qui se tord et où les gens se roulent par terre puis s'amusent follement. Ça, on adore ça.
Alors voici, chers auditeurs, les sacres de la semaine recommandés par l'Académie française. Tout d'abord, n'est-ce pas, il y a le sacre combiné, Christ de Colis. Le sacre matinal, Hostitoste. Le sacre atténué, Clin, Clis, Colin, Calvas. Enfin, tout le monde connaît ces petits sacres, ces sacrés. Le sacre historique. Vous ne pouvez pas vraiment vous imaginer que Louis XV a pu dire à Madame de Pompadour, après moi le déluge. Non, voici ce qu'il a dit. Madame, je m'encontre Saint-Cyboirise. Tout ceci illustre la richesse du sacre dans le langage, puisque le sacre peut servir à la fois de nom, de prénom, d'adjectif, de verbe et d'adverbe. Ainsi, la phrase suivante, Jean, qui était irrité, a expulsé Jules violemment, deviendra, et là, c'est l'éloquence pure, à le sacrement qui était en calvaire, encore lissé dehors, l'hostie en tabarnak.
Je l'ai repris, ce numéro-là, il y a une quinzaine d'années, dans un spectacle qui s'appelait De Félix à Desjardins.
L'humoriste et imitateur Jean-Guy Moreau.
Et puis, il y a un homme qui m'a écrit une lettre en me disant « Vous n'avez pas besoin, M. Moreau, d'aller là. Vous n'avez pas besoin de sacrer sur scène. » Alors que moi, c'était très important que je situe l'apport des cyniques dans l'évolution de la société québécoise. Ils font partie de ça. Ça allait beaucoup plus loin qu'à RBO parce que les cyniques ont cassé le moule, ont cassé la glace les premiers. Ça ne se faisait pas. C'était indigne. C'était, selon les têtes bien pensantes de l'époque, on ne pouvait pas parler de ça en public.
Vous savez qu'au Québec, nous possédons de nombreuses richesses naturelles. Par exemple, à Québec, il y a Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est pas drôle. T'as jamais allé, non? Et à Trois-Rivières, il y a le Cap de la Madeleine. Et puis à Montréal, les chanceux. On a l'oratoire Saint-Joseph.
J'ai été longtemps, quand j'étais étudiant, j'avais un emploi d'été qui était guide touristique à l'église Notre-Dame.
Marc Laurendeau.
Et donc, je connaissais tout le milieu des guides touristiques. Je connaissais toutes les bonnes anecdotes qui se racontaient sur l'oratoire, le musée de cirque, etc. Les gens qui téléphonaient à l'oratoire, puis qui disaient « Hey, c'était à quelle heure, les miracles? » Tout ça, je connaissais, là. Alors, quel que soit le mérite du frère André et puis le mérite d'avoir construit cette basilique, il reste qu'il y avait une exploitation qui était quand même un peu mercantile. Hein. C'est un peu ce que ce numéro dénonce. Et pour l'époque, ça avait un côté, encore une fois, subversif. Et c'était l'objectif de ce numéro.
Ah, welcome, American tourists. Bonsoir, les poissons. Good evening, freaks and monsters. Bonsoir, les infirmes. I am pleased to see you. Je suis plissé de vous voir. I am delighted to see you. Je suis dilaté de vous voir. Par ici, s'il vous plaît, this way, please. Follow the guide. Suivez les guides. Et voici maintenant le fameux escalier de 5000 marches avec une travée au milieu pour ceux qui montent à genoux les bras en croix. Si vous réussissez à vous rendre en haut, c'est un miracle. Par ici, s'il vous plaît, this way, please. Follow the guide. Et voici maintenant la crypte. Et voici maintenant le cœur du frère André à l'âge de 40 ans. Watch your step. Et voici maintenant le cœur du frère André à l'âge de 5 ans. Follow the guide. Suivez le guide. Cigare, mets ça dans le bocal. Voici maintenant les corsets, les bretelles, les combinaisons du frère André. Tout est discret et de bon goût. Et voici maintenant le hall des miracles. The Miracle Mart.
La visite de l'oratoire avec le guide de l'oratoire, aujourd'hui, ça passerait même pas. Tu sais, là, pour les animateurs du matin qui font des faces, là, le boss descendrait, là, on n'est pas des infirmes. Là. On prononce même pas le mot infirme. Voyons donc.
Entreposez vos béquilles. Mettez vos béquilles à l'abri du mythe. Notre devise, guérison garantie ou infirmité remise. Par ici, s'il vous plaît, this way, please. Quoi? Oh non, mon petit garçon, vends pas de béquilles en chocolat. Parlez de guide. Monsieur, arrêtez de vous cogner partout, là. Monsieur, arrêtez de vous cogner partout. Monsieur, je vais vous casser votre canne blanche. Et voici maintenant le Hall des Lampions, the Hall of the Lampions. Il y a d'abord les juniors à 10 cents, les jumbo à 1 $, trois couleurs, rose, citron, lime ou ananas. Hey, madame, dis donc votre petit gars d'arrêter de me faire des grimaces. Quoi? Ah, c'est un mongol. Pardon. Par ici, s'il vous plaît, follow the guide. Non, monsieur, non, votre poumon d'acier rentre pas dans la porte. Et voici maintenant une vanne remplie d'huile de Saint-Joseph. Une gracieuseté de la compagnie Mazola. Et voici maintenant le chic restaurant de l'oratoire, endroit soit les de confiance, ou même vous, monsieur le paralytique, vous ne vous ferez pas rouler. Messieurs les bossus, en avez-vous plein le dos? Hein? Après le miracle, quoi de mieux qu'un rafraîchissement? Venez déguster nos hot dogs reliques moutarde. Et terminez la journée en dégustant le breuvage favori du pape, le Pepsi.
Marc Laurando, c'est lui qui a donné le ton.
Jean-Guy Moreau.
Un ton de chauffeur de truck. T'ajoutes un A après tout ce que tu dis. C'est quoi la différence entre... pas fait de gag encore, mais déjà le ton, tu sais qu'il s'en va quelque part. T'sais, sacré peu, sacré mieux. Sacré de l'ambiance, ça.
Chasuble qu'on s'amuse.
André Dubois.
Marc, pour moi, c'était un gars qui était rigoureux. Il travaillait beaucoup ses textes. Marc aussi, dans la façon qu'il prévoyait ou préparait ses numéros, accordait beaucoup d'importance au visuel. Donc, pour lui, les costumes, c'était bien important. Et là encore, il préparait ça. Il nous arrivait toujours avec des surprises, même à nous. Il s'intéressait beaucoup à l'ensemble de la carrière des cyniques aussi. Marc a toujours pris des grandes responsabilités à l'intérieur du groupe. Donc, à chaque fois qu'on avait des contrats à négocier, Marc, spontanément, allait voir les gens qui voulaient nous engager et discutait, négociait. Et il le faisait très bien, d'ailleurs. Aussi, toute l'organisation du spectacle, comment le spectacle allait être structuré. Marc avait une sorte de rôle de leader naturel, en quelque sorte, à l'intérieur du groupe, et il le travaillait très bien.
Après avoir lancé leur deuxième album, les Cyniques donnent une série de spectacles aux Patriotes à Montréal et dans plusieurs régions du Québec. Le président et fondateur du Festival Juste pour rire, Gilbert Rozon, se souvient de son premier contact avec les Cyniques.
Petit préambule, je viens d'une famille très, très religieuse. Alors, chez nous, c'était vraiment le chapelet en famille à 7 heures tous les soirs. La messe tous les dimanches, il va de soi. Et même quand on avait des malheurs, on faisait des neuvaines, 9 messes consécutives pour obtenir des indulgences. Alors, la foi était tellement au rendez-vous, le péché, on se confessait tout le temps. Et vers l'âge de 13 ans, mon père m'amène voir les Cyniques à la chute, à l'école Monseigneur de la Course, et je suis avec 600 hommes, pratiquement aucune femme. Toutes des personnes qui allaient à la messe, étaient religieux, étaient croyants. Et sur scène, j'ai 4 gars qui se moquent du cardinal Léger, qui parlent d'une visite guidée à l'oratoire en employant des expressions comme « hot dog, relique, moutarde ». Et c'est une irrévérence totale face à la religion. C'est qu'on casse tous les dogmes, tout ce qu'on m'a appris depuis que je suis petit enfant. Et là, éclaboussé, écrasé, piétiné, et les gens rient, hurlent. Mon père est mort de rire. Je me dis, mais attends, là. Ils sont exactement en train de se moquer de ce qu'on me demande de croire. Et ça a été un tournant. En 1966-67, il y a un moment, on est passé d'hyper-croyant au doute total. Et les Cyniques, ils sont arrivés avec un humour qui ramassait tout ça. Puis ils nous l'ont foutu dans la face, ça faisait tellement de bien.
Le 5 juin 66, Daniel Johnson est élu premier ministre du Québec. Extrait de la soirée des élections avec le journaliste Pierre Nadeau.
Alors, votre réaction, M. Johnson?
Voici, si M. Lesage n'est pas certain d'avoir perdu l'élection, nous sommes certains de l'avoir gagné. Le seul parti qui sort de cette campagne avec une victoire, c'est l'Union nationale. Il y a des partis qui se battent avec des scandales. Nous, nous nous battons avec des idées.
L'arrivée de Johnson au pouvoir, ça a été un choc sur le plan politique.
André Dubois.
C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, ça y est, le party est fini. Johnson va mettre fin à toute la progression des institutions. On va revenir comme dans le bon vieux temps.
Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a aucun rapport entre la cigarette et la politique. Eh bien, c'est faux. Prenez-moi par exemple, je roule même mes cigarettes. Et je pourrais ajouter d'ailleurs, si vous me passez l'expression, que je bourre même ma pipe.
Johnson a été élu beaucoup grâce aux régions. Donc, c'est comme si les régions prenaient leur revanche sur Montréal en disant, ça y est, oubliez ça, là, on va remettre de l'ordre. Bon, il y a eu ce choc-là, mais en réalité, c'est pas ça du tout qui s'est passé. On s'est rapidement rendu compte que Johnson était lui aussi un progressiste. L'évolution de la société québécoise s'est continuée sous Daniel Johnson. Il n'y a pas eu du tout cet arrêt, ce retour aux valeurs de Duplessis.
Le 11 septembre 1966, les cyniques sont à la barre de l'émission spéciale De toutes les couleurs, la première émission couleur de la télévision de Radio-Canada.
Bonsoir, mesdames.
Bonsoir, mesdemoiselles.
Bonsoir, messieurs.
J'espère qu'on n'oublie personne.
On a d'abord pensé mettre des balais, rien que des balais, comme au début de la télévision, beaucoup de balais.
C'est beau, des balais, c'est tellement gracieux.
C'est plein de charme, d'élégance, c'est vivant, c'est captivant.
Mais c'est plate à mort.
On a pensé réaliser enfin le rêve de chaque téléspectateur.
Une belle série de messages commerciaux.
Fini les programmes ennuyeux qui interrompent nos beaux commerciaux.
C'était une grosse émission, l'arrivée de la couleur. Cette émission-là s'est plutôt bien passée. On a eu de bons commentaires le lendemain. Donc, en gros, on a réussi le passage à la télévision. Puis, il avait fallu écrire des numéros spécialement pour ça.
Serge Grenier.
On avait fait une parodie de Claude-Henri Grillon, qui écrivait les belles histoires à l'époque, puis qui a travaillé à Radio-Canada pendant des millénaires. C'est pas pour rien qu'on avait fait cette parodie-là. Claude-Henri Grillon, c'était un homme grognon. J'y peux rien, là. Pendant des années, il s'intitulait pamphlétaire sous le nom de Val d'Ombre. Puis là, il tapait sur tout le monde, sur tout ce qui bougeait.
Moi, j'ai des comptes à régler, moi. Avec certains politiciens. J'ai des comptes à régler avec certains journalistes et écrivains. Et je les réglerai. Là. Parce qu'en somme, ce n'est qu'un prétexte pour moi que de faire du pamphlet.
C'était notre version de l'homme de Cro-Magnon, mais qu'on avait appelé l'homme de Gros Grognon. C'est Marcel Saint-Germain qui jouait le rôle. C'était très drôle, d'ailleurs. Il était grognon, naturellement. Et il était habillé en peau de bête, puis il tenait une espèce d'objet contondant à la main, puis et qui grognait plutôt que de parler. Puis c'était, bon, l'homme de Gros Grognon, parodie de Claude-Henri Grillon.
Une fois pour toutes, Roman Fleuve de Claude-Henri Grognon.
Oh, et de la grande visite, Séraphin. C'est Monsieur Grognon, le lion du Nord.
Vous pouvez rentrer, M. Grognon, faites comme chez vous. Enlevez votre bouclier.
Alors, on lui a un peu servi sa propre médecine. Et il l'a pas pris. Mais il l'a vraiment pas pris. Il était furieux. Il avait menacé Radio-Canada de cesser sa collaboration. Bon, c'était vraiment... Ils l'ont pas cru. Puis personne l'a cru. Voyons donc, voir si Claude-Henri Guillon était pour tuer la poule aux œufs d'or, viens la chien. C'est tombé rapidement dans l'oubli. Mais lui, il était pas de nature rieuse. Il était vraiment grognon.
Le mois suivant, en octobre 1966, les cyniques animent le gala du Grand Prix du Disque.
Le gala du Disque, Festival 66, vous est présenté à l'occasion de la fête des maires.
Étant donné qu'il y a ici ce soir plusieurs maires des municipalités environnantes, que M. Drapeau en profite pour faire des annexions.
Mais attention, M. Drapeau, vous ne pourrez sûrement pas annexer Westmount. Vous devriez savoir que ça relève du fédéral, les réserves.
André Dubois.
On avait à travailler fort pour se préparer pour ça. On avait un trac incroyable.
Signalons la présence du maire de Villemont-Royal, qui a ce soir un pantalon déchiré. Il a essayé de sauter par-dessus la clôture. Signalons également la présence du père Ambroise, qui arbore ce soir sa magnifique soutane de gala.
Mais nous apercevons également sur la deuxième rangée, les trois premiers fauteuils, Ginette Renault.
Bien sûr, on avait beaucoup de succès, mais de se retrouver comme ça au milieu de toute la colonie artistique et d'être en quelque sorte les porte-parole de tout le monde, c'était une grosse responsabilité. Mais cette fois-là, on avait réalisé jusqu'à quel point tout le monde nous adorait dans le milieu artistique. Et ça s'était très bien passé.
Voici maintenant l'ennemi numéro un de Batman. Il est plus fort que le pingouin. Il est plus fort que le Joker, Olivier Guimond.
En nomination pour le meilleur disque humoristique, Les Cyniques sur étiquette Apex, Clémence Sans Pardon sur étiquette Gamma, Raymond Lévesque à la butte à Mathieu, également sur le disque Gamma. Le disque humoristique qui se mérite... Je suis aussi énervé que celui qui va gagner. Le disque humoristique qui se mérite un trophée est celui de... Les Cyniques, étiquette Apex.
Extrait d'une entrevue accordée par Marc Laurendeau et Marcel Saint-Germain à l'animateur Jean Mathieu le 9 décembre 1966.
Votre grand sujet, c'est l'actualité. Vous inspirez
l'actualité, la politique.
L'actualité permanente.
À peu près oui. Tout ce qu'il y a dans la société québécoise.
Tout ce qu'il y a de
on a grandi un peu notre cercle. On nous accusait un petit peu de frapper toujours sur le même clou. J'imagine que vous savez lequel.
Oui, oui.
Un excellent clou, au demeurant.
Oui, oui. Maintenant, on a grandi, c'est-à-dire qu'on attaque la justice, la pègre,
la politique. La télévision, les deux réseaux.
Nous nous transportons immédiatement à Télé Métropole, votre Canal 10, que vous le vouliez ou non.
Marc Laurendeau.
Télé Métropole, votre Canal 10, comme ça s'appelait à l'époque, c'est que dès sa fondation, TVA avait opté pour une approche populiste. Hein? Il y avait des artistes de cabaret. Il y avait un côté quétaine, là. Il y avait un côté pas de très bon goût à TVA dont on aimait volontiers se moquer. Et puis, il y avait ce personnage omniprésent qui était Réal Giguère, qui écrivait des téléromans, animait le talk show principal de la station. Il apparaissait dans plusieurs émissions. Il y a des moments où on se demandait si c'était pas lui qui balayait le poste à l'entrée puis à la fermeture de la station le soir. Il était omniprésent, bref. Ce numéro-là exprime, au fond, ce qu'était TVA à cette époque-là. Un peu bonne franquette, hein? Il y avait un côté bonne franquette et un côté pas trop regardant sur le bon goût.
Nous sommes dans la cabine d'un réalisateur au moment où celui-ci discute avec son régisseur.
Hey, patron, regardez dans ça, on va avoir un long générique.
Ouais, c'est long pour rien, coupe-en, ça fait intellectuel. Puis à part ça, il y a bien de nos auditeurs qui savent pas lire.
Avez-vous une idée comment ça va finir, cette émission-là?
Ah non, la seule émission ici où on sait comment ça va finir, c'est la lutte.
Hey, il y a un autre problème, patron, c'est qu'il n'y a pas d'animateur pour commencer l'émission. Il est parti sur une ballonne depuis deux semaines. C'est épouvantable.
Prends le gros giguère. Il est parfait.
Hé, hey, patron, j'ai regardé le script, là. Vous trouvez pas que les blagues sont un peu vieilles?
Mais non, le monde, ils veulent pas toujours entendre des nouvelles affaires pour les mélanger. Ils veulent se faire rafraîchir la mémoire.
Mais tout à coup, ils rient pas.
Ils vont rire. On leur donne du Pepsi, ils peuvent bien faire ça pour nous autres.
Ils riront peut-être pas au bon moment.
Tu leur feras signe qu'en rire.
Non, écoutez, patron, là, j'ai lu le script comme il faut. Ce qu'il nous faudrait, c'est quelque chose de plus subtil, de plus intelligent. Moi, je ne sais pas, par exemple, une satire en vers.
Mais tu fous, toi, là? Veux-tu nous faire perdre notre rating? On va leur en donner du subtil. Tu diras à Rod Tremblay de se faire aller à la bedaine.
Oui, mais Rod Tremblay n'est plus sur l'émission.
Prends le gros giguère, il est parfait.
Hé, hey, patron, il n'y a rien de sexy sur l'émission.
Ouais, parce que tu fais de la danseuse.
Elle est malade.
Ah. Prends une secrétaire au deuxième.
Hey, on va-tu faire porter le top plus?
Ouais, la télévision a besoin d'un nouveau visage.
Hey, patron, on n'est pas plus avancé. Il y a un trou ici. Il n'y a rien pour finir l'émission.
Passe un spot sur la plaza. Les annonces, ils aiment ça, eux autres.
Ben oui. Un spot sur la plaza, un spot sur la plaza. Il n'y a rien de prêt, il n'y a rien de préparé sur le film, il n'y a rien d'enregistré.
Prends le gros giguère. Il est parfait.
Sur le plateau, il reste 3 minutes avant le show.
Excellent! On a le temps de faire une répétition générale.
Jean-Guy Moreau et le cynique Serge Grenier.
La quétainerie québécoise, les quétaines y ont goûté, mais ça n'avait pas de bon sens.
On s'en moquait, mais c'était pas par méchanceté. C'est parce que c'était drôle en soi. Je pense au Classel, par exemple, il y a certaines des chansons qui interprétaient, bon... C'était d'une rare insignifiance.
Ton amour a changé ma vie.
Il y avait des vedettes populaires qui se complaisaient, je pense, dans leur popularité et qui surtout qui jouaient le jeu. Et à plein des journaux à potins, de ce qu'on appelait de la presse jaune à l'époque. Et pour jouer ce jeu-là, je pense qu'il faut faire beaucoup de concessions. Et il faut mettre de l'avant certaines choses qui se rapprochent plus de la quétainerie que du bon goût. Alors, dans le fond, je me disais, ben, tant pis pour eux, hein, ils l'ont voulu, c'est leur faute dans le fond. Moi, je ne suis qu'un porte-parole.
Horizontalement. Mot vulgaire de 7 lettres. Classel. Chanteuse préférée des lépreux. France Gall. Verticalement. Nom d'une artiste populaire du 19e siècle, Muriel Millard.
L'animateur, Claude Kenville.
Il y a eu une époque où Michel Richard s'était fait prendre à voler une robe chez Morgan, ici à Montréal. Et Serge Grenier faisait des mots croisés sur scène. Puis il commençait en disant, mot de 7 lettres commençant par un V. Michel Richard en est une. Et là, le monde faisait, oh!
Vedette.
Maintenant, l'heure des jeunes talents Catelli. L'émission où on vous présente des nouilles. L'émission des produits habitants. Notre premier invité ce soir, il s'agit d'un jeune juif. Mais j'espère que vous allez bien l'applaudir quand même. Le voici, je le sens déjà. Le rossignol de la pound shop. Abraham is a hell of a son of a bitch.
Le musicien François Cousineau, qui était membre des Cyniques à leur création, accompagne maintenant le groupe sur scène à titre de chef d'orchestre et de compositeur.
Marcel était unique. Il avait une très, très bonne voix. Et puis, c'était un naturel. Il avait non seulement la voix, il avait l'esprit, l'attitude, et il connaissait tous les opéras. Alors là, lui, il trouvait des textes sur des grands airs d'opéra classiques, puis il était Pavarotti à l'intérieur de lui. Donc, il prenait l'attitude, il riait pas, là, il faisait sérieux, là. Puis, il avait une voix surprenamment crédible. Alors, c'est ça le phénomène Saint-Germain.
Marc Laurendeau.
Sa chanson, qui s'inspire de la Traviata, qui s'appelle La Georgetta, elle est archi connue déjà. Et donc, quand il allait à l'opéra lui-même, Dès que quelqu'un, les musiciens, chanteurs entonnaient la Traviata, les têtes se tournaient vers lui au théâtre.
Pourquoi avec moi es-tu si frette? Dis-moi donc, qu'est-ce qui t'a pris de me faire la tête? Georges, souviens-toi quand tu étais coquette, quand le soir tu mettais pour moi ta grande jaquette. Hier soir j'ai rencontré mon ancienne blonde, elle voulait qu'on se dévergonde. J'ai refusé de faire la bombe. J'avais un grand-père à qui tu m'as grondé.
Marcel a toujours aimé les airs, les grands arias d'opéra. Ça, c'est certain.
Paul Saint-Germain, épouse de Marcel Saint-Germain.
Mais il a toujours trouvé l'opéra un petit peu grotesque. Alors, c'est la raison pour laquelle il parodiait.
Il y en a qui pensent que l'opéra, c'est un art périmé, vieillot, plate et même très plate. Eh bien, ces gens, je n'ai qu'une chose à leur répondre. C'est vrai.
Lui, il prenait n'importe quel air, il pouvait le chanter. C'était un ténor né qui n'a jamais étudié la musique. Il a utilisé cette voix magnifiquement bien.
Tu es le seul amour que je savoure, que je caresse comme une pizza dresse. Devant tes yeux luisants, longtemps je stalle ta bouche à le piquant de spaghetti meatballs. Je suis ton esclave pour la vie entière, si tu veux que je revole oh, ta brassière.
Les gens lui disaient toujours, vous chantez pas suffisamment, Monsieur Saint-Germain. Pourquoi vous chantez pas davantage? Puis il disait, les gens ont pas l'air de comprendre que je me moque de l'opéra, mais ils en veulent plus. En fait, ils voulaient entendre des airs. On aime beaucoup les chanteurs à voix au Québec. Alors, Marcel, il n'y a pas échappé, malgré que lui, il se moque littéralement.
Serge Grenier.
Un jour, j'étais à un concert de Mulhortier, alors j'étais allé le féliciter, puis il dit, moi, il dit, quand je prends ma douche, là, j'ai un système de son, il dit, j'écoute les airs d'opéra de Marcel Saint-Germain, puis il dit, je chante avec lui, il dit, je commence ma journée comme ça. Puis il dit, ça me met de bonne humeur, ça me met en joie pour toute la journée. Je l'avais raconté à Marcel. Marcel avait été très touché d'entendre ça.
Marc Laurendeau.
Il jouait de sa taille aussi, parce que c'était le plus petit d'entre nous quatre. Il jouait là-dessus. Il y avait tout de suite un effet comique dès qu'il se trouvait à côté de l'un d'entre nous. Il y avait un contraste formidable. Il saisissait tout de suite dans le personnage à jouer, les mimiques à faire. Ça lui venait tout naturellement de jouer de façon drôle, de mimer son personnage. Et j'ajouterais aussi le sens du timing. C'est quelqu'un qui avait un rythme de mitraillette absolument prodigieux.
Gna, gna, mon frère est police municipale, il va t'arrêter.
Mon frère est police provinciale, il va te torturer.
Gna, gna, ton cousin, c'est un Anglais.
Ouais, j'ai vu ton cousin tantôt, il était sous.
Ouais, mais demain, mon cousin sera plus sous, puis le tien va être encore un Anglais.
Un des soucis qu'on avait, c'était de maintenir le rythme pendant le spectacle. C'était une de nos marques de commerce. Les gens disaient, dès que vous entrez sur scène, on rit, et on rit jusqu'à la fin.
Il fallait pas
non-stop.
Que ça lâche. Notre devise était un gag ou 10 secondes.
Donc, c'est la raison pour laquelle on était sévère à ce niveau-là. Pas question de temps mort. Là.
Oui, question du rythme, c'était même les 6 secondes. Là. Si ça riait pas au bout de 6 secondes, il y avait un problème. Et si, dans ce, si on avait sauté un rire, là, pendant une longue période, disons 20 secondes, il n'y avait pas eu de rire. D'abord, ça avait un effet sur tout le numéro, mais ça avait un effet sur notre, notre psychologie à nous. C'est-à-dire, on se dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bout qui n'a pas ri.
Il y a un bout qui n'a pas ri?
Gna, t'as un bandit dans ta famille.
Puis toi, t'es un conseiller municipal.
Gna, mon père est plus fort que le tien. Mon père, c'est Larry Moquin.
Mon père est plus fort que le tien. Mon père, c'est Lise Payette.
Nya, nya, ton beau-frère, c'est un Mongol.
Pis le tien, c'est Gilles Latulippe.
Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces.
À l'occasion de l'Exposition universelle de Montréal, les Cyniques donnent une série de spectacles à la Comédie canadienne. Extrait d'une critique présentée par la journaliste Lisiane Gagnon à l'émission La Semaine des Arts, le 22 juillet 67.
De Stéphane Venn au cynique, en passant par Yolande Alizy, il y en avait, aurait-on cru, pour tous les goûts. En fait, j'ai plutôt eu l'impression qu'il n'y en avait que pour les cyniques, tant le public a manifesté d'enthousiasme à les voir revenir sur la scène de la comédie canadienne. C'était, il faut le dire parce que c'est un signe de santé, c'était donc un public extrêmement diversifié de la clientèle du Canal 10 aux collégiens. Les Québécois apprennent donc à rire d'eux-mêmes aussi bien que de leurs tabous et de leurs mythes.
Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle, messieurs?
C'était vraiment formidable. Je m'attendais à ça, quoi, quand même.
Vous aimez beaucoup les cyniques?
Oh, oui, vraiment, beaucoup.
C'est pas la première fois que vous les voyez?
Non, c'est la deuxième fois.
Est-ce que vous trouvez qu'ils vont trop loin, parfois?
Non, non, c'est tout à fait normal. Je crois, je trouve pas ça.
Est-ce que vous trouvez qu'ils vont trop loin, parfois, madame?
Non, pas du tout.
Non? Pas assez loin?
Juste assez. Très spirituel, c'est toujours à double sens. Il n'y a pas de relâche non plus. Hein.
Est-ce qu'il y a des choses qui choquent, d'après vous, à certains moments?
Ça pourrait choquer les esprits étroits, je pense, mais il faut qu'ils jettent des tabous par terre. Il y en a trop eu sur bien des domaines.
Et vous trouvez qu'ils font ça?
Ils font très, très bien ça, oui.
Franchement, bien beau à voir.
Vous trouvez que c'est bon d'avoir un groupe comme ça qui fait rire?
Oui, franchement, ils sont bien sympathiques.
Est-ce que parfois, vous trouvez qu'ils vont trop loin?
Non, franchement, on sent que la foule les aime bien.
Vous pensez qu'ils jouent un rôle important dans le Québec, que c'est sain ce qu'ils font?
Oui, c'est très bon. Ça réveille.
C'est reposant de rire.
J'allais dire comme la phrase de De Gaulle, quoi. Ça réveille.
Bien, moi, je le trouve pas bête.
Vous les avez aimés beaucoup?
Ah, beaucoup.
Vous avez beaucoup ri?
Ah, beaucoup.
Vous avez tout aimé?
Ah, certainement. J'ai mon fils qui est cynique.
Ah bon?
André.
Je m'appelle Batman.
Je m'appelle Robin.
Je suis toujours avec Robin.
Je suis toujours avec Batman. On est toujours ensemble.
On n'est pas ici pour s'amuser.
C'est dommage.
On est ici pour régler les problèmes des Canadiens français.
Message reçu, Batman.
À qui on va s'adresser d'abord?
À un membre du gouvernement du Québec.
Sois plus précis.
Au lieutenant-gouverneur?
Tu brûles.
Agent Lesage?
Il est déjà brûlé.
À Daniel Johnson?
Bravo. On va lui demander de régler les grèves.
On s'adresse à son ministre du Travail.
On peut pas, Robin.
Pourquoi, Batman?
Il est en grève. Mais les plus dangereux, c'est les séparatistes.
Faut pas toucher à ça, Batman. C'est de la dynamite.
Comment on va faire pour régler tous nos problèmes?
Il nous faut un plan, Batman.
Message reçu, Robin. Je mets mon bat-cerveau en marche. Voici mon plan. Nous allons nous emparer de Québec City.
Oui, Batman.
Nous allons planter notre drapeau.
Oui, Batman.
Sur le Parlement.
Oui, Batman.
Nous allons liquider les chefs politiques les plus dangereux.
Bravo, Batman. Mais comment?
Je vais t'expliquer, petit crétin. D'abord, Bourgault, il veut se séparer. On va le faire mourir d'écartèlement.
Oh, je comprends. Daniel Johnson aussi, on va le faire mourir d'écartèlement.
Non, il est déjà assez écarté.
Une émission couleur de Radio-Canada.
À l'été 68, les cyniques sont à la barre de l'émission hebdomadaire Émission Impossible.
Connaissez-vous quelqu'un de plus sale qu'un vidangeur sale? Un épée propre.
Comme dit le proverbe, un cadran vaut mieux que deux otuleurs.
Moi, là, je suis sourd. Si je m'écoutais, là, je ferais rien.
Je savais pas qu'elle avait des dentiers avant que ça sorte dans conversation.
André Dubois.
Quand on était approché par la télévision, on avait encore cette réputation d'humoriste là, qui se moquait de tout, qui était extrêmement méchant. Alors, on nous a probablement dit, écoutez, vous venez à la télévision, mais là, c'est un large public, alors faites attention, allez-y mollo. C'est ce qui nous forçait à écrire du matériel avec lequel on était peut-être moins à l'aise.
Chère madame, j'aimerais beaucoup faire de la politique. J'ai 35 ans, une bonne profession, je sais parler en public, j'ai une vie rangée, je suis honnête. Il signe, pensez-vous que j'ai des chances?
Mon cher, pensez-vous que j'ai des chances? Bonne profession, savoir parler en public, vie rangée, vous êtes honnête. Je serais pas élu.
Le passage à la télévision, je pense qu'il aurait fallu rester un peu plus longtemps dans le domaine du showbiz, parce que on le voit aujourd'hui, quand les humoristes abordent la télévision, souvent ils le font par l'intermédiaire de sitcoms ou de, on leur crée des rôles dans des émissions qui s'apparentent à des fictions. Nous, on n'a pas vécu cette expérience-là. Je ne sais pas si on aurait été à l'aise. Il aurait fallu qu'on devienne un peu des comédiens, et c'était pas vraiment ce qui nous intéressait.
Eh bien oui, c'est notre dernière émission de la série.
Eh bien oui, notre dernière. S'il y a des choses que vous n'avez pas aimées ou que vous avez moins aimées, gardez donc ça pour vous, on n'aime pas les critiques.
Serge Grenier et Marc Laurendeau.
La télévision, ça a été comme un side order au restaurant.
La télé, c'était autre chose. C'était, bon, on était chanceux, deux séries d'été, plus cette ouverture en 66 de toutes les couleurs, ouverture de la saison.
Mais tout ça fait, en l'absence du public, se retrouver dans un studio avec comme seul auditeur, finalement, et de toute façon, ils ne sont pas là pour écouter, ils sont là pour travailler, l'équipe technique autour. Disons que c'était un joyeux contraste
puis, pas de temps
notre vie sur scène.
Pas de temps pour roder le matériel. Il fallait écrire, interpréter. Puis là, peut-être qu'on manquait d'assurance ou c'était pas notre façon habituelle de fonctionner. On n'était pas à l'aise.
Les séries d'été, effectivement, il fallait produire.
La scène était notre habitat naturel.
Il était une fois une petite fille bien pauvre qui s'appelait Cendrillon. Intelède. Maudit qu'intelède. La mère de Cendrillon, une bien méchante femme, Mame Bélil, avait beaucoup de varices sur le gras de jambe, sentait le tour de bras, était pleine de bobos sur le caisseur. Mais à part ça, ça allait très bien. Elle était danseuse cochonne de son métier. Son nom d'artiste était de Gorgeous Georgette. En français, Georgette la Gorgeuse. Elle avait baptisé sa fille Cendrillon parce qu'elle s'en servait comme cendrier.
Le disque, à ce moment-là, c'est quand même une nouveauté.
L'historien et auteur Jean-Claude Germain.
Je ne dis pas qu'il n'existait pas des disques, ça existait des disques. Il y avait tout un comique cochon qui existait sur les disques. Là. Mais je parle que eux, c'est quand même une partie de leur carrière. Moi, mes enfants, ils ont écouté les cyniques des années après, puis ils ont eu le même mouvement d'émerveillement devant les cyniques, parce que c'était pas un comique qui était basé sur la théâtralité. La meilleure traduction qui existe de ce que c'est qu'ils ont été, c'est effectivement les disques.
Est-ce que vous connaissez Tante Lucille? Eh bien, Tante Lucille est une bonne vieille tante qui raconte des contes pour enfants le samedi matin à la radio. Eh bien, Tante Lucille a décidé d'aller raconter des histoires aux petits garçons de l'école de réforme. Des petits monstres. Voici donc, dans un petit conte délicieux, charmant, coquet et féerique, Tante Lucille.
Bonjour, mes petits amis. Il était une fois un petit garnement nommé Pierrot qui était bien torieux. Une fois qu'il avait entendu parler de la guerre contre la pauvreté, il lança une grenade sur un pauvre. Puis il se dit, je vais mettre le feu à son taudis. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il voulait empoisonner son oncle, il lui servit une pinte de chalac. Il mourut, mais quel fini! Le petit Pierrot riait souvent de sa maman car elle était bien laide. Quand elle allait au zoo, il lui fallait deux billets, un pour entrer et un pour sortir. Un jour, il demanda à sa maman, un éléphant faisant grou, grou. La maman dit au garnement, tu veux un fanfan? Si tu es sage, papa ira t'envoler. Mais il faudra que tu cesses de commettre des indécences sur ta petite sœur, celle que tu as fait avorter. Un jour, tu commettras un crime sérieux. Le petit Pierrot, lâchant sa bouteille de bière, scounchant sa cigarette de marijuana, dit d'un air coquin, « Tais-toi, vieille folle, je vais t'en sacrer une. » La maman était très en simonaque. Elle gronda le petit Bramba en disant « Il n'y a plus d'enfants !» Le petit Pierrot répondit « Elle n'offre pas bonne femme, des enfants m'attendent faire, moi. » Il s'en alla saccager une église, piller un tabernacle et termina l'avant-midi en profanant un cadavre, car il était très, très boudeur. Revenu chez lui, comme sa maman ne voulait pas donner d'animaux à Pierrot, il lui tordit un bras en disant, si tu me donnes mon fanfan, je serai mignon, mignon, mignon. Sinon, je te colisse en bas du cinquième étage. Ce qu'il fit. Le petit petit Guéluron descendit. Il espérait trouver de la bonne maman que petit paquet d'os tout décocrissé. Il ne fut pas déçu. La morale du conte, s'il y a dans votre famille un charmant petit bébé qui veut sauter en bas du cinquième étage, laissez-le faire. Il ne commencera pas deux fois. La semaine prochaine, tante Lucille aura un conte pour tous les petits vicieux. Ali Baba et les 40 voyeurs. Et tante Lucille fera un grand tirage. Elle fera tirer une mitraillette. Dans une semaine, vous serez le seul petit garçon du quartier à avoir une vraie mitraillette. Et dans deux semaines, vous serez le seul petit garçon du quartier.
Archives, Stéphane Gourde et Marie-Lie Houle. Technicien, Christian Ferland. Narration, Marie-Ève Soutière. Recherche, entrevue et réalisation, Mathieu Beauchamp. Les Cyniques, Méchante Révolution est une production de la première chaîne de Radio-Canada à Montréal.